Le journal Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Situation critique en raison des inondations en Charente et en Charente-Maritime au cinquième jour de crue. Le pic n'est pas encore atteint. Reportage à Saintes dans un instant où des dizaines de personnes ont dû être évacuées. Les premières doses du vaccin de l'AstraZeneca ont été livrées aujourd'hui. Premières injections à Lyon. C'est le troisième vaccin autorisé en France. La campagne de vaccination va pouvoir s'accélérer. Une première au Vatican. Une femme nommée numéro 2 du synode, le pape François, a choisi une religieuse française, Nathalie Bécard. Dans ce journal également, du rugby avec la victoire du 15 de France, 50-10, face à l'Italie en ouverture du tournoi Destination. Et puis notre rendez-vous du samedi 19h avec Ma Vie Connectée et Christine Siméone dans les secrets des effets spéciaux au cinéma. La météo pour demain, temps perturbé, vigilance orange, neige, verglas dans le Nord et le Pas-de-Calais. 9 autres départements restent en vigilance orange au cru. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Les inondations exceptionnelles en Nouvelle-Aquitaine et une inquiétude toute particulière ce soir en Charente et en Charente-Maritime au cinquième jour de crue. Le pic de la Charente n'est toujours pas atteint à Cognac, dans le département de Charente. La vie sans gaz et parfois sans électricité a commencé. Situation critique à Saintes en Charente-Maritime où le niveau de l'eau continue de monter, 6,05 m aujourd'hui, du jamais vu depuis 1994. Et des dizaines de personnes ont dû être évacuées et ce soir, il pleut toujours. Reportage à Saintes, Perrine Roguet, France Bleu La Rochelle.
L'Arc de Triomphe de Saintes a quasiment les pieds dans l'eau. Il longe les quais du fleuve. Lydie et son fils vivent juste à côté. Alors ils ont décidé de prendre tous les meubles du rez-de-chaussée et de les mettre en sécurité. Le tout dans un local qui ne risque pas d'être inondé.
C'était pas prévu.
Vas-y.
Si, on y prend encore. Ça tiendra. J'y crois. Oui. C'était du verre ?
Des bijoux.
Ah oui, d'accord, c'est bien du bijou.
Christophe est venu aider sa sœur. Il était temps, des premiers signes d'inondation apparaissent dans la maison.
Là, c'est tout mouillé, ça vient de la cave. Ça commence à prendre bien l'humidité, ça y était pas hier, ça encore, donc ça commence à sentir mauvais, finalement.
Quelques rues plus loin, ce sont deux autres frères et sœurs. Ici, c'est un cabinet d'expertise de livres anciens, alors il a fallu en transporter le plus possible. Jean-Marc se dépêche de barricader l'entrée, l'eau n'est qu'à quelques mètres.
Le barrage de la dernière chance, on va dire. Une plaque de contreplaqué de 2,60 m de long, 40 cm de haut qui appuie sur la marche et qui s'appuie sur le rideau métallique. Ça sera peut-être complètement insuffisant, mais au moins on aura la conscience d'avoir tenté quelque chose.
Pour l'instant, 22 rues sont coupées à Saintes et plus de 80 personnes restent privées d'électricité. Les relogements sont en cours.
Perrine Roguet de France Bleu La Rochelle. La campagne de vaccination se poursuit sur fond d'approvisionnement toujours limité et contraintes logistiques, mais les premières doses du vaccin d'AstraZeneca ont été livrées aujourd'hui et les premières injections ont eu lieu à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, d'abord pour le personnel soignant, puis aux personnes âgées de 50 à 64 ans. Plus de 273 000 doses ont été distribuées. Il s'agit du troisième vaccin après Pfizer et Moderna autorisé en France. La campagne de vaccination va donc pouvoir s'accélérer. François-René Pruvot, président de la commission médicale du CHU de Lille.
Nous, par exemple, pour les Hauts-de-France, nous allons en toucher là, dans notre centre privé, plus de 9000 doses ce week-end. On nous a promis 9000 autres doses le week-end prochain. Surtout, il est d'une utilisation plus simple, puisque vous savez, il se conserve au frigidaire comme le vaccin de la grippe habituelle. La réception est un peu tardive, ça dépend des transporteurs, et donc nous allons en fait commencer demain matin. Il y a déjà une liste de pas loin d'une centaine de soignants, ceux qui travaillent le dimanche, qui vont venir se faire vacciner. Nous allons aussi essayer de réserver quelques vaccinations pour des malades vulnérables, ceux que nous traitons dans nos services. Mais pour certains d'entre eux qui ont plus de 65 ans, le vaccin idéal reste le vaccin Pfizer.
François-René Pruvot avec Arsine Lebovitch. Deux nouveaux mineurs de jeunes filles mis en examen, notamment pour tentative d'assassinat dans le cadre de l'enquête sur l'agression de Yuri, cet adolescent roué de coups dans le quartier Beaugrenelle à Paris mi-janvier. Les deux mineurs se sont présentés spontanément à la police et à l'issue de leur garde à vue, elles ont été mises en examen pour tentative d'assassinat, vol avec violence et participation à une association de malfaiteurs. Au total, 11 personnes sont mises en examen dans cette affaire, dont 7 pour tentative d'assassinat. À Bordeaux, la personne disparue depuis ce matin après l'effondrement d'un immeuble soufflé par une explosion a été retrouvée morte dans les décombres. La victime est une femme âgée de 88 ans. Son mari, de 89 ans, a été gravement blessé. Une explosion sans doute due au gaz a détruit un immeuble de 2 étages dans le quartier des Chartrons, à Bordeaux. Une quasi-révolution au Vatican. Pour la première fois, une femme a été nommée au poste de sous-secrétaire du synode. Le pape François a nommé la religieuse française Nathalie Bécard, première femme à ce poste et première et seule femme à avoir le droit de vote lors des synodes très fermés. Rome, Xavier Sartre.
Certes, la sœur Nathalie Bécard n'est pas la première femme au Vatican à être nommée à un haut poste de responsabilité dans une des institutions de l'Église. Mais sa nomination est une nouvelle preuve de la volonté du pape François de féminiser un peu plus les postes que l'on pourrait qualifier d'administratifs. C'est comme cela que Nathalie Bécard voit sa promotion, comme elle l'a confié dans une interview à Radio Vatican.
Je le reçois vraiment comme un signe, une confiance pour les femmes dans l'Église, pour les religieuses et plus largement aussi pour les laïcs. En réponse aussi à tout ce qui s'est dit dans les derniers synodes, sur lequel aussi le pape François insiste beaucoup aujourd'hui sur l'enjeu d'associer davantage les femmes aux prises de décision, au discernement dans l'Église.
En devenant numéro 2 du secrétariat du synode, Nathalie Bécard aura un rôle organisationnel dans la grosse machine que sont les synodes, ces assemblées qui rassemblent évêques, religieux et religieuses, experts religieux et laïcs autour d'une question donnée et qui doivent conseiller le pape dans ses décisions. C'est dire si la position de la religieuse française est importante. Mais pour une pleine reconnaissance des femmes dans cette institution, il y a encore du chemin à parcourir. Si Nathalie Bécard, de par sa fonction, pourra voter avec les évêques les conclusions des débats, les autres femmes ne le pourront pas. Et pour l'heure, rien ne devra changer. Rome, Xavier Sartre, France Inter.
La Cour pénale internationale pourra donc enquêter sur de possibles crimes dans les territoires palestiniens occupés par Israël. Les juges de la CPI se sont déclarés compétents pour poursuivre les auteurs de crimes qui auraient été commis en Cisjordanie, à Gaza ou à Jérusalem-Est. Cette décision a provoqué la colère du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lorsque la CPI enquête sur de faux crimes de guerre, dit-il. C'est de l'antisémitisme pur. La décision a en revanche été saluée par l'autorité palestinienne. Reportage à Ramallah, Alice Roussard.
C'est le travail des juristes, des défenseurs des droits, sans relâche depuis 2015. C'est aussi un grand pas vers la justice, précise Amar Hijazi, du ministère palestinien des Affaires étrangères.
La situation en Palestine a été marquée par une totale impunité concernant des violations flagrantes du droit international. Maintenant, ceux qui ont commis ces crimes devront en rendre des comptes, ce qui est extrêmement important.
C'est un bon début, tempère de son côté Tarsin El-Ayan, directeur des programmes de l'ONG palestinienne Al-Haq.
Et nous aimerions aussi que la procureure ne limite pas ses enquêtes à seulement quelques crimes. Il y en a tellement qui ont été commis sur le territoire palestinien occupé et qui peuvent être poursuivis par cette Cour pénale internationale. Donc nous attendons de voir. La Cour, c'est aussi la dernière carte en main des victimes palestiniennes pour que justice leur soit rendue. Si la communauté internationale et la Cour échouent cette fois, cela enverrait un message très négatif aux Palestiniens.
Les pressions politiques risquent de s'accentuer. Leur organisation a déjà reçu des menaces, mais dit-il, cela ne nous arrêtera pas. Ramallah, Alice Froussard, France Inter.
Et sur notre site franceinter.fr, vous pouvez consulter la page consacrée à cette décision. La CPI compétente pour enquêter, 5 questions pour comprendre. franceinter.fr.
France Inter. Frédéric Barrère.
En rugby, en ouverture du tournoi Destination à Rome, l'équipe de France a surclassé l'Italie 50-10. Le 15 de France a inscrit 7 essais. Le tournoi commence donc très bien pour la jeune équipe de France. Charles Olivon, capitaine de l'équipe, est bien sûr satisfait du résultat. Mais maintenant, cap sur l'Irlande dimanche prochain. Charles Olivon avec Fanny Le Chevestrier.
Je crois que déjà, c'est vrai qu'on fait ce sport pour gagner, donc il y a une grosse satisfaction de gagner. Mais je crois que ce que je retiendrai surtout, c'est la concentration et la constance qu'on a eue durant 80 minutes. Voilà, on n'avait pas le droit de relâcher. On sait qu'un tournoi à destination, ça se joue sur des détails. Je suis très fier de toute l'équipe d'avoir pu maintenir un niveau d'efficacité sur les 80 minutes complètes. Donc voilà, bravo à tout le monde et qu'on reste surtout concentré, qu'on prépare bien le prochain match, parce que voilà, il y a du monde qui nous regarde, on joue pour nos supporters, pour nos fans, pour nos familles, et qui peuvent pas venir nous voir au stade, donc voilà, on doit tout donner.
Charles Olivon, capitaine du 15 de France. Notre rendez-vous du samedi 19h avec Christine Siméon et Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine.
Bonsoir Frédéric.
Ce soir, vous nous plongez dans les secrets des effets spéciaux des films révélés dans un MOOC des cours en ligne grand public qui font parler ceux qu'on ne connaît pas et qui pourtant sont les artisans de la magie du cinéma, ces effets spéciaux de Star Wars au film Willy's Wonderland qui devrait sortir prochainement, Christine.
On aime bien connaître les coulisses et les secrets de fabrication de nos films préférés, n'est-ce pas? Vous parlez, Frédéric, de Willy's Wonderland. Eh bien, Nicolas Cage, l'acteur principal, va se retrouver au milieu de créatures d'un parc d'attractions. Au cinéma, ça s'appelle des animatroniques, des poupées robots, en quelque sorte. C'est le même type de technique que pour les zombies de Walking Dead. Ce MOOC commence bien sûr par les trucages de Georges Méliès dès 1896 et on arrive très vite aux besoins technologiques de Georges Lucas pour la saga Star Wars. Voilà ce que raconte dans ce MOOC le spécialiste Alexandre Poncet au sujet de Star Wars.
Au début des années 1980, Georges Lucas demande à sa société d'effets visuels, ILM, de réaliser une scène de poursuite en moto volante pour le retour du Jedi. La vitesse de déplacement des véhicules est telle qu'il est impossible de ressentir le mouvement de la scène avec des dessins en deux dimensions.
Star Wars, évidemment, qui réunit toutes sortes d'effets spéciaux possibles et imaginables, mais il y a aussi une série hyper connue, une série télé qui fait référence en la matière et c'est Game of Thrones.
Vous apprendrez qu'un studio de Rennes, Goalem, a travaillé pour la série, notamment pour la saison 7. Ici, la scène d'affrontement était déjà tournée avec des figurants humains très nombreux et il s'agissait d'en rajouter. Nicolas Chavroux, du studio Golem, explique comment on s'y prend. Et là, la magie du cinéma tient à la puissance des logiciels.
Donc, il y a quelques dizaines de figurants, on va vouloir en rajouter des milliers. Donc on va essayer de trouver les points communs sur ces figurants, la manière dont ils sont habillés, le maquillage qu'ils ont. Les actions aussi, et ces actions-là, on va les dupliquer sur nos personnages, on va leur appliquer des règles. Évidemment, on ne peut pas individuellement manipuler chacun des personnages de la foule, donc on va donner des règles. On va laisser la simulation faire le calcul de toutes les positions de ces personnages. Évidemment, le réalisateur va vouloir du contrôle artistique sur certains personnages qu'on voit plus à la caméra. Donc on va pouvoir intervenir après sur individuellement sur chacun des personnages, fixer peut-être son apparence, fixer peut-être son animation, lui faire faire autre chose, jusqu'à ce qu'on obtienne la scène qu'on voit à la télévision.
Christine Siméon, Ma Vie Connectée, les effets spéciaux du cinéma retrouvés sur franceinter.fr. Une drôle de couleur aujourd'hui dans le ciel, un ciel jaune sur une grande partie du pays. C'est un phénomène météo bien connu. Bonsoir Xavier Demagny.
Bonsoir.
Rien d'inquiétant, mais les photos et ce ciel d'une couleur étrange ont été très très partagés sur Internet et les réseaux sociaux.
Oui, on en a vu de toutes les couleurs. Frédéric, la palette est large, des tons ocre, orange ou parfois rose. De la Côte d'Azur jusqu'à Strasbourg en passant par Lyon, Grenoble ou bien encore Dijon.
C'était un peu oppressant, mais après, on s'est dit que ça allait passer, simplement.
C'était bizarre.
C'est la fin du monde. Franchement, oui, je me suis dit ça.
Alors, on va rassurer tout le monde, y compris ces quelques inquiets interrogés par France Bleu Bourgogne. Tout va bien. Ce phénomène est un classique en météo, même s'il est moins courant en hiver. Il s'appelle le Sirocco. C'est un vent fort, sec et chaud venu du Sahara qui transporte avec lui des particules de sable du désert, d'où la couleur. Olivier Proust est prévisionniste à Météo France.
Classiquement, on a notre ciel avec des températures élevées pour la saison, c'est ce vent de sud, et ce vent de sud souffle à l'avant de pluie. Donc en général, on a la pluie ensuite qui arrive, une pluie sale, dès la soirée, en région lyonnaise par exemple, on va voir la pluie commencer à lessiver ce ciel ocre.
Une pluie chargée de sable qui va s'ajouter à des retombées déjà particulièrement impressionnantes en montagne, où la neige a parfois changé de couleur sur les pentes des Alpes et des Pyrénées. Le phénomène, Frédéric, doit désormais se diriger vers l'Europe centrale.
Et les photos garanties sans filtre de ce ciel jaune à retrouver sur franceinter.fr. Merci Xavier Demagny et vous nous conduisez tout naturellement à la météo.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Épisode neigeux ce dimanche sur le nord du pays. Déjà cette nuit sur le nord et le Pas-de-Calais, en vigilance orange. Il va neiger et il va continuer en journée en donnant au total une épaisseur de 3 à 5 cm, possiblement jusqu'à 10 sur l'Artois et les Flandres maritimes, où compte tenu du vent sensible, des congères risquent de se former. En journée, de faibles chutes de neige vont également toucher la Normandie, la région parisienne et les Ardennes, mais en quantité beaucoup plus négligeable. La neige sera également au rendez-vous en montagne, vers 500 mètres sur les Vosges et le Massif central, 800 sur le Jura, à partir de 900 sur les Alpes et les Pyrénées. Autour de la Méditerranée, le retour du Mistral et de la Tramontane vont favoriser un bon ensoleillement. Des éclaircies souvent durables vont se développer entre les Charentes et la Bretagne, alors que partout ailleurs l'ambiance sera maussade. Les températures nocturnes vont friser le 0 degré sur les Hauts-de-France avec des maxima à peine positifs, alors qu'ailleurs, malgré une baisse, les valeurs vont rester au-dessus des normes.
Jean-Michel Golinski de Météo France.